de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministre des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI visite l'Angleterre pour accroître leur soutien à résoudre Gaza. Le président a inauguré les opérations aéroportuaires de Farfak et de Nabire. Trois volontaires en attente d'évacuation de Gaza vers l'Égypte, a affirmé MERC. Le ministre indonésien de la Défense a déclaré que l'Indonésie construisait son propre navire de guerre de type frégate. Le ministère de la Santé reçoit 102 unités des mobiles de radiographie de la subvention du gouvernement japonais. L'Indonésie et la Turquie conviennent de renouveler le protocole d'accord sur l'emploi. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, ainsi que ses homologues d'Arabie Saoudite, de Palestine, de Jordanie, d'Égypte, du Nigeria et le secrétaire général de la Ligue arabe se sont rendus à Londres, en Angleterre, mercredi 22 novembre 2023, qu'on fait partie du suivi de la résolution du sommet extraordinaire de l'OCI à Riyad il y a quelques temps pour recueillir le soutien pour résoudre le problème de Gaza. À Londres, les ministres des Affaires étrangères ont rencontré la presse internationale et ont salué chaleureusement l'accord de libération des otages et le début d'un cessez-le-feu humanitaire de 4 jours. Toutefois, les ministres des Affaires étrangères ont déclaré qu'un cessez-le-feu plus permanent était nécessaire pour que l'aide humanitaire puisse être fournie sans obstacle. Dans une déclaration reçue jeudi à Jakarta, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie considérait l'importance du respect du droit humanitaire international.
Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya.
Je dis que même en guerre, il y a des lois, il y a des règles. La protection de la société civile et des établissements publics, y compris les hôpitaux, constitue une partie importante du droit humanitaire. En parlant d'hôpitaux, je dirais que les hôpitaux indonésiens font partie des victimes. Je voudrais dire que depuis plusieurs jours, l'Indonésie a perdu le contact avec les citoyens indonésiens qui travaillent dans les hôpitaux indonésiens. Une fois de plus, je souligne que la protection de la société civile est très importante. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Retno, a également souligné que les pays du Sud global comprennent vraiment l'importance du respect des droits de l'homme, du droit international et du droit international humanitaire. Par conséquent, selon elle, les pays du Sud global devraient également appliquer les mêmes valeurs et normes à la Palestine. Le président Joko Widodo a inauguré jeudi les opérations aéroportuaires de l'aéroport Siboru Fakfak en Papouasie-Occidentale et de l'aéroport Douaturu-Renabiré en Papouasie-Centrale afin d'améliorer la connectivité des transports dans la région. Cité par Antara, le président Joko Widodo a déclaré que l'accès aux transports à Tanah-Papouasie n'est pas facile car il existe encore de nombreuses zones difficiles d'accès pour le public. Il n'est pas rare que les gens aient besoin de voyager pendant des heures, même des jours, pour se rendre dans une région. Selon le président, le développement croissant des secteurs du développement et de l'économie de la Papouasie nécessite des meilleures installations et moyens de transport. Le président a déclaré que l'aéroport de Siboru deviendra un pont aérien dans la région de Papouasie-Occidentale pour relier Fakfak, Sorong, Timika, Kaimana, Amahai, Dobo, Bintuni et un certain nombre d'autres régions. L'aéroport d'Ouatourouré dans la province de Papouasie-Centrale relie également Nabire à plusieurs villes de Papouasie telles que Timika, Manokwari et Jayapura. Trois comités indonésiens de secours médical d'urgence MERC a déclaré jeudi que trois de ses volontaires de l'hôpital indonésien du nord de Gaza attendent d'être évacués de l'enclave assiégée vers l'Égypte. Selon un communiqué publié par Merci sur son compte Instagram officiel @MerciIndonesia, ils ont été évacués de l'hôpital indonésien du nord de Gaza vers Rafah dans le sud de Gaza. Le processus d'évacuation des trois volontaires du Merci de l'hôpital indonésien dans le nord de Gaza a été mené à la suite d'une attaque à la roquette israélienne sur l'hôpital indonésien qui a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs autres. Lorsqu'Antara l'a confirmé par Kourmelsaz, le président du Présidium du Merci, Sarbini Abdul Murad, a déclaré que les trois citoyens indonésiens, à savoir Fikri Rofiul Haq, Reza Aldila Kurniawan et Farid Zanzabil Al-Ayoubi, seraient d'abord évacués vers l'Égypte. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a révélé qu'actuellement, l'Indonésie développe et fabrique son propre navire de guerre de type frégate. Le navire de guerre a été construit à Surabaya, dans l'est de Java, et sera officiellement lancé en 2024. Cela a été déclaré par le ministre Prabowo lors de la réunion de travail régional de l'Association des gouvernements villageois indonésiens au Rakerda Abdesi à Java West à Bandung jeudi 23 novembre, cité par Antara. Selon le ministre Prabowo, la première frégate construite en Indonésie s'appelait la frégate Rouge et Blanche. Le ministère de la Santé reçoit 102 unités des mobiles de radiographie de la subvention du gouvernement japonais pour aider les établissements de santé indonésiens à réaliser des examens radiologiques rapidement et facilement. C'est ce qu'a transmis le vice-ministre de la Santé de la République d'Indonésie, Dante Saxono Harbuono, par intermédiaire du Bureau des communications et des services publics du ministère indonésien de la Santé, jeudi 23 novembre, cité par Antara. Dante a déclaré que le Japon et l'Indonésie avaient conclu un accord de subvention dont l'un concernait le secteur des équipements de santé. Outre les 102 unités des mobiles de radiographie, il existe également 102 unités d'écran de radioprotection et 102 unités de tablier de radioprotection. Pendant ce temps, l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Kanazuki Kenzi, lors de la remise de la subvention de mobiles de radiographie à Jakarta mercredi 22 novembre, a déclaré que la subvention était la preuve du respect de l'engagement du gouvernement japonais à soutenir le gouvernement indonésien dans le secteur de la santé. Le gouvernement indonésien et le gouvernement turc ont convenu de renouveler un mémorandum d'accord dans le domaine de l'emploi. L'accord a été conclu lors d'une réunion bilatérale entre la ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, et le ministre turc de Travail et de la Sécurité sociale, Vedat Isihan, à Baku, en Azerbaïdjan, jeudi 23 novembre. La ministre Ida Fauzia, dans sa déclaration jeudi, citée par Antara, a déclaré que le champ d'application de la coopération dans le protocole d'accord comprend les relations de travail, la réglementation, Le développement des ressources humaines, la sécurité et la santé au travail, le travail sûr et ordonné. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui. Intitulée « AIEA demande à Israël d'adhérer au traité de non-prolifération des armes nucléaires » avec Maudry. Chargé d'État, plus tôt ce mois-ci, le ministre israélien du patrimoine culturel, Amihai Eliyahu, a publié une déclaration selon laquelle le gouvernement israélien envisageait la possibilité de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza pour combattre le groupe palestinien Hamas. La déclaration d'Eliyahu est considérée comme une admission de facto qu'Israël possède des armes nucléaires. La Russie, par l'intermédiaire de la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova a déclaré qu'Israël semblait avoir admis qu'il possédait des armes nucléaires. Elle a critiqué le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et des inspecteurs nucléaires internationaux qui n'ont pas donné suite à la reconnaissance d'Israël. Tout comme Zakharova, le président turc Recep Tayyip Erdogan semble également croire qu'Israël possède des armes nucléaires, bien que Tel Aviv l'ait nié à plusieurs reprises. Erdogan a déclaré qu'il demanderait au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, d'enquêter sur la possession d'armes nucléaires par Israël. Jusqu'à présent, Israël n'a ni confirmé ni nié officiellement sa possession d'armes nucléaires. La déclaration d'Eliyahu confirme les soupçons de longue date selon lesquels Israël possède des armes nucléaires. Les enquêtes menées par l'AIEA sont essentielles pour garantir que l'énergie nucléaire est développée et utilisée par un pays et des fins pacifiques. Dans le cas contraire, les armes nucléaires soupçonnées d'appartenir à Israël pourraient déclencher une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. Cependant, la demande visant à ce que l'AIEA enquête sur la possession d'armes nucléaires par Israël est difficile à réaliser. En effet, Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire de 1965, qui exige que ses membres soient la cible des inspections de l'AIEA. Il sera donc difficile pour la communauté internationale de contraindre Israël à révéler les armes nucléaires. Conscient de cela, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a réitéré son appel à tous les pays du Moyen-Orient, y compris Israël, à adhérer au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. S'adressant aux journalistes à Vienne, mercredi 20 novembre, cité par Antara, Grossi a exhorté tous les pays à adhérer à la non-prolifération des armes nucléaires qui vise à empêcher la propagation des armes nucléaires et de la technologie des armes nucléaires. Grossi a également rappelé que l'Assemblée générale de l'AIEA, le Conseil d'administration et lui-même ont appelé à plusieurs reprises tous les pays du Moyen-Orient, y compris Israël, à adhérer à la non-prolifération nucléaire. Il n'est pas facile de faire pression ou de demander à Israël de rejoindre l'AIEA. Les efforts diplomatiques doivent se poursuivre pour qu'Israël adhère au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce n'est qu'en adhérant au traité de non-prolifération nucléaire qu'Israël pourra être obligé de s'y conformer et de s'engager à ouvrir toutes ses installations nucléaires à des inspections nucléaires complètes. Bon, cher Jeter, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui. Et nous commençons avec un événement chaque 24 novembre et la Journée de l'Évolution. La Journée de l'Évolution est une journée pour commémorer la théorie de l'évolution. Selon le site web Assembly for All, le 24 novembre a été désigné comme Journée de l'Évolution parce que le 24 novembre 1859, le scientifique britannique Charles Darwin a publié un ouvrage intitulé « Sur l'origine des espèces ». Dans le livre, il indiquait que la sélection naturelle est une forme de théorie évolutionniste. Darwin a également déclaré que l'évolution ne peut être séparée de la façon dont les créatures vivants survivent et s'adaptent à leur environnement. En raison de son ouvre, Charles Darwin est souvent appelé le père de l'évolution. Le 24 novembre 1969, Apollo 12 atterrit avec succès dans l'océan Pacifique. Apollo 12 était la 16e mission du programme Apollo de l'Agence spatiale américaine ou NASA. Apollo 12 est le deuxième vaisseau spatial à atteindre la Lune. La mission a été lancée le 14 novembre 1969 depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le 19 novembre, Apollo 12 a atteint avec succès la Lune et les astronautes ont posé le pied et exploré la surface lunaire. Le soir du 24 novembre 1969, cette mission se termine par l'atterrissage du module Apollo 12 dans l'océan Pacifique et le retour des astronautes en toute sécurité. Thank you. Venkatra Novam Vladimir Tres lirang asinya un accord nucléaire avec le pays du P5 plus 1. Le 24 novembre 2013, un accord appelé Plan d'action commune a été signé par l'Iran et le P5 plus 1. Le P5 plus 1 est composé des États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Dans l'accord entré en vigueur en 2014, l'Iran a accepté de geler une partie de son programme nucléaire à court terme afin de réduire les sanctions économiques contre l'Iran. Le plan d'action commun entre l'Iran et le P5 plus 1 est le premier accord formel entre les États-Unis et l'Iran depuis 34 ans. Cet accord a ensuite été affiné par le plan d'action global commun en juillet 2015. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kau wanita yang ada di sisiku, yang menjagaku, yang mendoakanku, kau kaulah teman hidupku yang menemaniku, memberi nafas hidupku. Kecantikanmu ada di dalam hatimu, kau yang membuat aku semakin ku. Kecantikanmu seiring dengan senyummu, hingga ku damai dalam pelukanmu. Terima kasih kau telah datang dan memberi cinta sesungguhnya. Bersama dengan dia yang ku cinta, Tuhan, biarlah kami bahagia dan memberikan bahagia. Jadikanlah kami pasangan, akulah dan dirimu lah pasangan yang terindah. Ada di dalam hatimu, kau yang membuat aku semakin kuat. Kecantikanmu seiring dengan senyummu, hingga ku damai dalam pelukanmu. Terima bersama dengan dia yang ku cinta, Tuhan, dan memberikan bahagia pasangan akulah. Oh, akulah.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est L'Indonésie est le pays membre du D8 explore la coopération pour accroître la capacité des coopératives et des MPME. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises étudie la collaboration avec l'organisation Developing 8 ou D8 ou un groupe de 8 pays en développement pour accroître la capacité des coopératives et des micro, petites et moyennes entreprises MPME. Les 8 pays en développement sont le Bangladesh, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, l'Égypte, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Cette collaboration est très bonne à suivre car elle apportera de nombreux avantages aux pays membres du D8 car chaque pays a des avantages et du potentiel. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire du ministère des coopératives et des PME, Arif Rahman Hakim, lors de sa rencontre avec le secrétaire général du D8, Ishak Abdul Kadir Imam, à Jakarta, lundi 20 novembre. Sa déclaration, citée par Antara, 22 novembre, Arif a expliqué qu'actuellement, l'Indonésie tente d'augmenter la capacité des MPME et des coopératives. Sa partie a plusieurs programmes prioritaires. Pour les micro-entreprises, le gouvernement renforce la légalité des affaires, les PME renforcent les chaînes d'approvisionnement, tandis que les coopératives sont encouragées à devenir des coopératives modernes et à entreprendre. Le gouvernement cible également la création d'un million de nouveaux entrepreneurs. Par conséquent, selon Arif, il est important d'explorer la coopération avec l'organisation D8 pour échanger des informations sur l'autonomisation des coopératives. Au cours de la réunion, le secrétaire général du D8, Ishak Abdul Kadir Imam, a déclaré que l'organisation du D8 se concentrerait également sur le développement des MPME en impliquant tous les membres du D8, y compris l'Indonésie. Selon lui, les MPME jouent un rôle important dans le développement économique de tous les pays du D8. Même en Indonésie, 90% des acteurs économiques sont dominés par des MPME. Il a salué l'idée de tenir la première réunion en 2025. Abdul Kadir a également ciblé qu'en 2030, le commerce des produits des MPME entre les pays du D8 et sur le marché mondial pourrait atteindre 500 milliards de dollars américains. Selon Abdul Kadir, le développement des MPME parmi les membres du D8 est un secteur important à améliorer et cela est important pour le bien-être de la société. C'est Juritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Tak mau lagi bersama dengannya. Aku mau. bersama denganmu. Akan aku tak sanggup berpisah dari dirimu.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine culturel intitulé Bubur Palopo avec moi Audrey. Chers auditeurs, si vous voyagez dans le district de Sumbawa Occidental, Nusa Tenggara Occidental, vous devez essayer l'une des spécialités régionales appelée Palopo. En langue Sumbawa, Palopo signifie bouillie de buffle. Comme son nom l'indique, le palopo est fabriqué à partir de lait de bouflon. Outre le lait de bouflon, la bouillie palopo est composée de cassonade, de sucre cristallisé et d'un peu de liquide d'aubergine jaune comme agent épaississant. La façon de cuisiner le palopo est très simple et ne prend pas beaucoup de temps. Du lait de bouflon fraîchement traite et mélangée à de la sève d'aubergine jaune. Ensuite, ce mélange est rempli de cassonade et de sucre cristallisé. Ensuite, remoué jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Puis, faites cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit cuit. L'aubergine jaune a pour fonction d'épaissir ou de faciliter le processus de fermentation. Une fois cuit, le palopo ressemble à un pudding au chocolat. Il y a une partie qui se dépose au fond du bol, mais il y a une autre partie qui ressemble à de la sauce. La couleur est blanc brunâtre. Il a aussi un goût sucré. La bouillie palopo est très délicieuse à manger lorsqu'elle est encore chaude. Habituellement, cette bouillie est généralement dégustée avec du ruban de riz gluant blanc. Il a un goût sucré et frais. En dehors de cela, en ajoutant du ruban adhésif, le goût devient plus piquant et plus chaud sur le corps. Chers amis, les habitants de Sumbawa Occidental croient que le palopo peut augmenter la vitalité du corps. Cette bouillie est souvent recherchée pendant le mois de jeûne, comme menu de rupture du jeûne. Les gens croient que le palopo est capable de restaurer l'énergie qui a été drainée à cause du jeûne. Cette bouillie est facile à trouver dans la région de Sumbawa Occidental, l'un des centres de vente de palopo et le marché de l'après-midi. Il y avait plusieurs commerçants qui vendaient cette nourriture traditionnelle entre 5 000 et 10 000 de roupies par bol. Pour chercher tard, c'est tout, le magazine culturel.
Voice of Indonesia.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah ke. Untuknya
betapa cinta ini sungguh berarti. Tetaplah terjaga selama tinggal kasih telah pergi selama.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur, intitulé « Naviguer dans la baie de Cendrawasi 2023 » avec moi Audrey. Chers auditeurs, pour vous qui aimez les sports maritimes, visitez le Cendrawasi Bay Sail 2023 qui se tiendra du 21 au 27 novembre 2023 dans la région de Samau Beach, Biak Numfor, en Papouasie. Cet événement, inauguré directement par le président Joko Widodo, avait pour but de promouvoir le potentiel du tourisme maritime en Papouasie. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que l'événement, le Cendrawasi Bay Sail 2023, avait un grand potentiel pour attirer les touristes et les investisseurs afin de relancer l'économie et de créer des opportunités d'emploi. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président a révélé que la Papouasie, en particulier la baie de Cendrawasi, possède un potentiel de tourisme maritime très riche. Ce potentiel doit continuer à être valorisé afin qu'il soit de plus en plus connu des touristes, indonésiens et étrangers. Le président a déclaré que Cendrawasi Bay est un paradis pour les récifs coralliens, un paradis pour la vie marine, et nous espérons qu'avec Cendrawasi Bay, la culture, la danse, la musique et les produits locaux papous pourront être introduits au niveau national et même au niveau international et au niveau mondial. Chers amis, le président Joko Widodo espère que cet événement pourra renforcer l'existence de l'Indonésie en tant que destination de tourisme maritime. De plus, la majeure partie du territoire indonésien est constituée d'océans. Il espère que l'événement, le Cendrawasi Bay Sail 2023, pourra présenter le potentiel maritime, le potentiel touristique et le potentiel socio-culturel. L'ouverture a été remplie d'un pas de navigation auquel ont participé des pêcheurs locaux et des navires de l'armée nationale indonésienne, des danses traditionnelles papues et des attractions de parachutisme de l'armée nationale indonésienne et de la police nationale indonésienne. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonesian Kula.
Yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingung. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja cinta pergi sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Entah angin apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja tanpa cinta sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Biar saja tanpa cinta sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Biar saja. Biar saja. Biar saja. Biar saja. Saja sementara sendiri.
Voice of Indonesia.
Ground down one go. Kita ini sama. trouble. I am generation of love. I love, I forgive. Hatred is my enemy. Love is my bullet. I will change the world. And the change starts with me. This is my truth.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Jakarta intitulée Ondel Ondel. Ondel Ondel est une grande poupée qui est devenue une icône des arts de la culture de la communauté Betawi ou Jakarta. Ce jour-là, la chanson Ondel Ondel a été écrite par Joko Subagio en 1970 et popularisée par le légendaire chanteur de Betawi ou Jakarta, Benyamin Sueb. On raconte que c'est grâce à cette chanson que le terme barongan, qui désigne cette poupée typique, a commencé à changer et c'est devenu plus populaire sous le nom d'Ondel Ondel. La chanson Ondel Ondel, au rythme joyeux, raconte le caractère unique des poupées betawi typiques, à commencer par les différents types et le comportement des Ondel Ondel lors des représentations. Habituellement, la chanson Ondel Ondel est chantée lors de spectacles d'art culturel, d'événements de circoncision, de propositions ou de mariages traditionnels Betawi ou Jakarta, mettant en vedette la figure d'Ondel Ondel lors de l'événement. Bon, chers auditeurs, voici Bunga Abiral et Embung Trompette va chanter une chanson intitulée Ondel Ondel de Jakarta. Bonne écoute.
Nyok, kita nonton ondel-ondel.
Nyok.
Nyok, kita ngarap ondel-ondel.
Nyok.
Ondel-ondel ada anaknya.
Ondel-ondel jejingkrakan, palingnya le berkobaran, yang ngarap pada kebingungan, disiramin air comberan.
Ya, kok malah ondel-ondel botak, gara-gara belakang tuh.
Kesian ya bang.
Maaf kok.
Ondel-ondel jejingkrakan, palingnya le berkobaran, yang ngarap pada kebingungan, disiramin air.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.